Il est 21h passé de quelques minutes. Nous sommes maintenant habitués à vous causer en énorme différé, façon puzzle sonore, et absolument pas dans les conditions du direct, depuis les studios bicéphales et résistants d'Ingrandes, Le Fresne sur Loire et d'Angers. Le Maine-et-Loire se remet tranquillement d'une vague de froid et de la recrudescence fluviale. Et oui, ce genre d'informations nous éloigne quelque peu des sujets qui nous préoccupent depuis maintenant une bonne année. Année noire pour la culture avant tout. Ne l'oublions pas, car sans culture, pas de beauté, d'appréhension, dans le sens appréhender les choses, et pas d'émerveillement nécessaire à toute création, qu'elle soit artistique ou pas. C'est comme ça. Vous êtes cependant toujours en France, et vous êtes bien à l'écoute de Radio G sur le 101.5 FM. Vos habituels complices de presque toujours sont avec vous, Luc, Toups et votre serviteur zélé, Julien. Bonjour les amis.
Bonjour Julien. Bonjour à tous.
Bonjour Julien. Ou peut-être bonsoir.
C'est l'heure de Calibre 58, une émission de bien mauvais genre et qui entend surtout vous sortir du noir. Maintenant, générique maestro.
Passant sur son chemin, soulève leur galure, le chien lui lèche les mains, sa présence rassure, voyez cet enfant qui bugle, par lui secouru, et comme il aide l'aveugle à traverser la rue, dans la paix de son jardin, il cultive ses roses, monsieur est un assassin, quand il est morose, il étrangle son semblable, dans le bois de Meudon. Quand il est inconsolable, quand il a le bourdon à la barbe des voisins, qui le trouve sympathique, monsieur est un assassin. Je suis son domestique et je classe le dossier sous les églantines. Je suis un peu jardinier et je fais la cuisine. Il étrangle son prochain quand il a le cafard, allez hop dans le bassin, sous les nénuphars, et je donne un coup de balai sur le lieu du crime où il ne revient jamais, même pas pour la frime, sans éveiller les soupçons. Aux petites heures, nous rentrons à la maison, je suis son chauffeur, la 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 la. Anodin, c'est un lunatique, monsieur est un assassin. Chez lui c'est chronique, il étrangle son semblable. Lorsque minuit sonne et moi je pousse le diable, dans le bois de Boulogne, le client dans une valise, avec son chapeau, prendra le train pour Venise. Et un peu de repos, il étrangle son semblable, dans le bois de Meudon. Quand il est inconsolable, quand il a le bourdon à la barbe des voisins, qui le trouve sympathique, monsieur est un assassin. Je suis son domestique. Vous allez prendre monsieur, je vais perdre ma place. Vous allez prendre monsieur, hélas, trois fois hélas, mais il fallait s'y attendre. Et je prie votre honneur humblement de me reprendre comme serviteur. Et je classerai ce dossier sous les églantines. Je suis un peu jardinier et je fais la cuisine.
Vous êtes bien sur le 101.5 FM de Radio G, et c'est Calibre 58. Nous écoutions Monsieur, une ritournelle du millénaire dernier et de Thomas Fersen, parue dans son album 4 de 1999. Monsieur est un assassin, et dans cette chanson, il est question de passants qui passent, de chiens qui lèchent les mains, d'enfants qui beuglent, de voisins qui le trouvent sympathique, et d'une personne qui classe le dossier. Étrangement, toutes ces affirmations trouvent à mes oreilles une résonance particulière dans le premier roman de Gwenaël Bulteau, La République des Faibles, qui vient de sortir à la Manufacture de Livres. Nous allons en parler de ce pas d'homme pressé qui m'anime. Pour compléter le sommaire de cette émission, Luc, lui, nous parlera d'un certain héros à la sauce testostérone, apparu dans la littérature en 1972 et qui fera quelques immersions remarquées au cinéma. Quant à Toups, il nous parlera, lui, d'un jazzman qui vient tout juste de décéder. J'ai nommé la légende du piano jazz, Chick Corea. Enfin, notre débat DVD portera sur la sortie chez Rimini de Jeunesse sauvage de Frédéric Carpentier, un film qui est apparu sur le grand écran dans un relatif mais compréhensible anonymat l'année dernière, Covid-19 oblige. Mais pour l'heure, revenons à La République des Faibles de Gwenaël Bulteau, qui vient de sortir à la Manufacture de Livres. L'intrigue se déroule en 1898 à Lyon. Alors, en 1898, la France se déchire entre Dreyfusard et anti-Dreyfusard. Il faut ajouter un brin de germanophobie, vu que l'oncle Bismarck a privé le pays de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine. C'est la Troisième République, une république encore plus bourgeoise que celles qui l'ont précédée. Comme on fête actuellement le 150e anniversaire de la Commune, je vous laisse imaginer le décor. Le gilet jaune de l'époque, c'est plutôt un gilet rouge. Les flics font pas de détails, et surtout pas de quartier. Gwenaël Bulteau va s'intéresser à Jules Soubiel, un commissaire qui enquête sur l'assassinat d'un enfant dans le quartier de la Croix-Rousse. Alors, c'est une enquête classique avec une constante que l'on retrouvera à travers tout le roman. Tout se sait et tout se tait. Mais cette enquête ne pourra être linéaire, la faute à l'auteur qui multiplie les sous-intrigues et déverse un lot de thématiques historiques bienvenues. Le commissaire nouvellement arrivé est marié. Sa femme attend enfin un heureux événement. Elle se trouve des voisins charmants, un couple. Le mari est pharmacien, la mère pondeuse au foyer, et elle souhaite faire rencontrer à son mari ce couple-là qui lui semble bien sous tout rapport. Le Jules Soubiel, il est tout frais dans son commissariat, et il ne connaît pas encore toutes les tensions de son équipe. Ce qu'il sait, en revanche, c'est que des tensions, il y en a un peu partout en ville. Nous sommes à la veille d'élections primordiales, placées sous le sceau de la sottise antisémite. La Ligue est donnée grande gagnante. Et, dans le double ticket lyonnais, l'un de ses porte-lances est un inspecteur aussi corrompu que méchant qui se rêve une carrière politique avec tout plein de compromissions. L'enquête va progresser très lentement, et d'autant plus lentement que l'inspecteur dont je vous parlais réussit, lui, à se faire suriner. Vous imaginez ? Les flics n'aiment pas deux choses en général. Un, qu'on enquête sur eux, et deux, qu'on tue l'un des leurs. Alors là, c'est un peu le branle-bas de combat. Mais il va y avoir d'autres problèmes qui vont survenir sur fond de syndrome post-traumatique, de prostitution, de tromperie, de fugue, de dénis multiples et variés, et de retour dans l'adolescence de certains personnages. Et puis, le commissaire a quelques problèmes existentiels qui ne simplifient pas les choses. Le tout dans un contexte historique et urbain qui peut faire penser à l'homme aux lèvres de saphir d'Hervé Lecor, avec une écriture classique qui va à l'essentiel tout en s'attardant sur des descriptions psychologiques à faire frémir. Gwenaël Bulteau propose un texte imparfait mais qui captive toute notre attention. Il sait créer un roman d'ambiance et dépeindre des personnages. Pour un peu, on sentirait la puanteur de sa ville. Pour un premier roman, franchement, c'est bien. On sent qu'il a de l'attachement à un personnage principal qu'il maltraite et qu'il a envie de le retrouver. On ne sait pas si ça doit être tout le mal qu'on lui souhaite, sachant que s'enfermer dans une série n'est pas toujours la solution. D'un autre côté, il y a tant à dire sur l'époque, et sa galerie de personnages est tellement touchante, qu'on verrait bien débarquer cette série dans Grand Détective de 10-18 en poche à l'avenir. L'auteur et son lecteur se posent des questions. Moi, je vais plutôt donner maintenant la parole à Gwenaël Bulteau. Bonjour Gwenaël. Comment en êtes-vous arrivé à écrire ce roman ?
Bonjour. Alors moi, j'ai toujours été un grand lecteur. De tout temps, j'ai aimé les récits d'enquête. C'est vrai que j'en ai engrangé un certain nombre. Et j'ai toujours eu à côté le goût de l'écriture. Alors j'ai écrit pendant longtemps des nouvelles. J'ai participé à de nombreux concours. Et j'ai rencontré à ces occasions-là pas mal d'écrivains de polar, justement. Parce que c'était les concours où, semble-t-il, les jurys avaient une préférence pour mon texte. Alors j'ai pu rencontrer des gens comme Karine Ferret, Sandrine Colette ou Hervé Jourdain, qui sont vraiment des personnes très abordables, qui sont adorables et qui m'ont toujours encouragé, félicité pour mes écrits. Et j'avais envie de passer à un format plus long. Et donc voilà comment j'ai écrit La République des Faibles, qui est mon premier roman.
Mais qui sont donc ces faibles dont vous causez dans La République des Faibles ?
Alors, la République des faibles, c'est la République qui doit protéger les faibles. Et les faibles, ce sont les femmes et les enfants. Ils sont faibles déjà physiquement par rapport à la brutalité des hommes. Et ils sont faibles aussi, ils sont faibles juridiquement. Leur voix, leur parole n'a aucune valeur. Ils sont absolument soumis aux hommes. Et moi, ça m'intéressait, en fait, dans mon roman, de donner une voix assez faible, de les voir évoluer. Leur vie est pleine de souffrances, mais il y a par moments des faibles qui ont une volonté de s'émanciper, quoi, une volonté de s'en sortir. Ces faibles-là, moi, je les aime beaucoup.
Pourquoi vous intéressez-vous à Lyon et pourquoi en 1898 ?
Alors, à l'origine, moi, j'ai écrit une nouvelle pour le festival Quai du Polar. C'était en 2017. Et ça parlait du 36 Quai des Orfèvres. Et pour rédiger cette nouvelle, je m'étais intéressé à l'ouverture du 36 Quai des Orfèvres qui avait lieu à la Belle Époque. Et en me documentant, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup cette période. D'une part parce qu'elle était fondatrice de la nôtre. Il y a eu au cours de cette période la loi sur l'école, la loi de séparation de l'Église et de l'État, la loi sur les associations. Donc on avait vraiment notre société actuelle qui était en germe à ce moment-là. Et d'autre part, c'était une société qui était pleine de tensions. Et ça m'intéressait. Il y avait des tensions. Bien sûr, il y avait l'antisémitisme qui était complètement débridé. Il y avait toute cette haine des Allemands qui datait de la guerre de 70. Il y avait des luttes sociales qui étaient absolument meurtrières. Les gouvernements envoyaient l'armée. L'armée tirait sur la foule. L'armée tuait donc des prolétaires. Et puis, bien sûr, c'était une société absolument misogyne. Et donc, toute cette société pleine de tensions, elle m'intéressait beaucoup parce que je trouvais aussi qu'il y avait des résonances avec la nôtre. Par exemple, par rapport à la misogynie, on voit encore aujourd'hui qu'il y a la parole qui se libère avec les mouvements MeToo, avec la parole qui se libère par rapport à l'inceste. Et je trouvais que cette société du 19e siècle mettait bien en perspective toutes ces choses-là.
Franchement, c'est qui ce commissaire Jules Soubiel ?
En fait, Lyon, je n'y suis allé qu'une seule fois. Lyon, c'était pour donc assister à un festival Quai du Polar en 2017. J'ai trouvé l'ambiance assez extraordinaire. J'ai beaucoup aimé la géographie de la ville également. Mais à côté de cela, il y avait une raison peut-être un peu plus littéraire, c'est que Lyon est lié en fait à pas mal d'images que j'ai en tête. Alors ce sont des images très connues, hein, ce sont quasiment des clichés. Il y a les canuts, il y a le Gonne, il y a le théâtre de Guignol. Et moi, quand j'étais enfant, je disais aussi les six compagnons qui relatent les aventures d'une bande d'enfants et de leurs chiens sur les pentes de la Croix-Rousse. Et donc Lyon, quand je pense à Lyon, j'avais tout ça en tête. Et en fait, tous ces motifs, je les ai utilisés dans le roman. J'avais envie de les utiliser. Et ils se retrouvent égrenés à peu près pendant toute l'histoire, quoi. Dernière raison par rapport à Lyon. C'est que pour le commissaire Soubiel, je me suis inspiré d'un personnage historique qui était le commissaire Sébille, Jules Sébille, donc lui qui a vraiment existé, et qui était le fondateur en fait des brigades judiciaires, ce qu'on a appelé a posteriori des brigades du Tigre. Et donc ce fameux commissaire Sébille, lui, a commencé dans le sud de la France, mais a fait une partie de sa carrière à Lyon, autour de cette époque-là.
Vous pouvez nous parler un peu des femmes et de leur place de la société et de la place dans votre roman ?
Au 19e siècle, en fait, pour en revenir au rapport du couple dans mon roman, parce que ça a une part importante en fait. Les rapports de couple et la parentalité, ce sont des thèmes qui traversent le roman. Les femmes à cette époque, elles n'avaient pas le droit de vote, elles pouvaient même pas disposer de leur salaire, c'était leur mari qui choisissait pour elles. En fait, les femmes à l'époque, c'était pratiquement que des ventres. Elles avaient donc une existence sociale à partir du moment où elles avaient des enfants. Et c'est vrai que dans mon roman, en fait, j'exploite un petit peu ce thème-là. Avec la femme du commissaire qui, elle, a beaucoup de mal à avoir des enfants et ou une frustration par rapport à ça. Et la femme du pharmacien qui, elle, en a une ribambelle et au bord de l'explosion.
Et votre commissaire, il a quel rapport avec sa propre femme ?
Oui, exactement. Il s'interroge. C'est vrai qu'il s'interroge par rapport à ça. Et il est très en retrait par rapport à la venue de cet enfant pendant tout le long du texte. Et il éprouve en plus une attirance pour une autre femme. Mais ça reste un petit peu en suspens quand même à la fin du livre.
Vous pouvez nous expliquer les ressentiments envers les Juifs et les Allemands à cette époque ?
Oui, alors c'est vrai. Je disais tout à l'heure que l'antisémitisme, il était complètement, complètement débridé. Il était complètement décomplexé à cette époque-là. On imagine quand même qu'il y a des candidats aux élections qui mettaient sur leurs affiches, qui revendiquaient le fait d'être des candidats antisémites. Il y avait également le journal La Croix. C'est pas le journal La Croix actuel, bien évidemment, heureusement, mais le journal La Croix vers 1880, donc c'est un petit peu avant, mais était tenu par des fanatiques qui arguaient du fait, qui revendiquaient aussi le fait d'être le journal le plus antisémite de France. Et donc il y avait une haine du juif à l'époque qui était généralisée et qu'on a encore du mal à imaginer maintenant, même si évidemment il y a encore des soubresauts antisémites assez régulièrement. Le juif était considéré comme l'ennemi intérieur et c'était celui qui sapait la nation. Et donc il accumulait en fait tant de haine sur lui. L'esprit revanchard, c'est vrai que par rapport à la guerre de 70, c'est vrai que ça a germé pendant des dizaines d'années. Pendant 30, 40 ans, il y a eu cet entretien en fait de la haine de l'allemand, de la volonté de récupérer l'Alsace et la Lorraine, qui était là, qui était bien présente. Et c'est pareil, donc que ce soit par rapport à l'antisémitisme ou à l'antigermanisme, il y avait donc des partis politiques qui entretenaient ces passions, hein, si je puis dire, et qui s'en servaient et qui en faisaient une espèce de matériel électoral. Donc c'est vrai que cette société de la Troisième République, c'était très 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 tendu.
Un flic, ça doit forcément boire ?
Il y en a un, effectivement, qui s'adonne à la boisson, mais c'est un écorché vif, et les racines du mal, enfin, pour lui, effectivement, c'est que lorsqu'il était jeune et qu'il a fait son service militaire, et donc il a subi cet endoctrinement militaire, hein, ça durait plusieurs années à l'époque, on l'a envoyé en province pour réprimer une manifestation ouvrière. Il a tiré sur la foule, il a tué un homme, et il ne s'en gênait jamais remis. D'où, en fait, son refuge dans la boisson. Les autres flics boivent beaucoup moins, quand même.
Votre roman a de multiples personnages et presque autant d'obsessions. C'est votre avis ?
Je pense que, de toute façon, déjà à l'époque, le terme de résilience n'existait pas. Ce n'était pas quelque chose qui était considéré ou pris en compte. Et donc, il n'y avait, de toute façon, il n'y avait personne pour les aider. Mais après, c'est vrai que mes personnages, ils ont ces souvenirs qui les hantent. Ils sont prisonniers de ce passé. Et pour certains, ils nous ont beaucoup de mal à s'en sortir, voire même ils ne s'en sortent pas. Et ce sont des obsessions qui finissent pour certains, par les tuer.
Vous la voyez comment, cette société de la Belle Époque ?
Oui, je pense que c'est assez bien vu, en fait. Je crois que dans le livre, ce qui était important pour moi, c'était de montrer le poids de la société, donc 19e siècle, quelle influence elle avait sur les personnages, comment les codes, les lois de la société, les habitudes de vie pouvaient détruire les gens. Et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, ça de voir à quel point, en fait, la société aussi... avec toutes les bonnes choses qu'on veut mettre dedans, reste quand même un cadre absolument étouffant pour certaines personnes et les rend malades.
C'est quoi votre ambition après ce premier roman ?
Je pense que je n'en ai pas fini avec ce personnage et je pense aussi que je n'en ai pas fini avec cette époque. La Troisième République, la Belle Époque, la dite Belle Époque, c'est quand même une période assez longue, mais il y a encore des choses à approfondir, notamment sur les révoltes sociales et donc cette volonté encore de s'émanciper, mais là plutôt du côté prolétariat qui veut s'émanciper. C'est des choses qui m'intéressent beaucoup également.
Et maintenant, question cruciale avant de nous quitter. On écoute quoi comme musique ?
Là, je propose de quitter le 19e siècle. Moi, j'ai été un très très grand fan de tout ce qui est rock indépendant. Donc, j'écoutais beaucoup PJ Harvey, par exemple, ou My Bloody Valentines, et puis surtout Sonic Youth. Sonic Youth, qui est un groupe que j'ai vu en concert de nombreuses fois, et j'ai toujours adoré cette énergie, cette complexité. Bon, il y a des chansons de Sonic Youth que j'ai écoutées 100 fois, et je retrouve toujours des motifs avec un grand, grand plaisir. Alors, je propose d'écouter un morceau qui est un hommage à un de leurs amis qui a été tué dans une pare-balles aux États-Unis dans une supérette, qui est sur l'album Dirty et qui s'appelle 100%. The chick is mine. Boy who shot you in the head.
Vous êtes bien sur Radio G 101.5 FM. Nous écoutions sur les conseils de Gwenaël Bulto, le groupe de rock indé Sonic Youth. 100% est issu de l'album Dirty paru en 1992, ce qui, avouons-le, ne nous rajeunit pas beaucoup plus que tout à l'heure avec Thomas Fersen. Je vous rappelle le roman policier historique de Gwenaël Bulto, qui nous plonge à Lyon en 1898, pendant que le peuple se déchire autour de l'affaire Dreyfus. On retrouve maintenant Luc pour sa chronique « On n'achève pas les classiques » après un petit jingle.
Eh bien, Julien Etoups, bienvenue dans l'enfer américain. Je vous ai dégoté un petit bijou de roman chargé de tuerie, de poursuite et de sacrifice. Quand je vous dirai le titre de ce roman en français, vous allez, j'en suis sûr, me soupçonner d'avoir contracté le Covid-19, mais que le virus ne s'est pas fixé sur mes poumons, mais sur mon cortex latéral cérébral, siège de l'intelligence, d'après une publication de la revue Science en juillet 2020. Car vous savez bien évidemment que je suis abonné à la revue Science. Mais je vous vois maugréer, alors ce titre, c'est quoi ? Eh bien, il s'agit tout simplement de Rambo. Oui, le Rambo que vous connaissez au cinéma avec Sylvestre, je vais tout péter. Mais le titre original, c'est First Blood. Et c'est le premier roman de David Morrell, publié en 1972. John Rambo, c'est un ancien soldat des forces spéciales américaines, des bérets verts, formé pour être une machine à tuer. Dans la scène d'ouverture, on le trouve dans une station-service faisant du stop à l'entrée de Madisonville. Petite erreur de traduction, la version française parle de Madison, située dans le Wisconsin, et non pas de Madisonville, en américain, et tout attaché. Madisonville, c'est tout petit, la ville ne compte qu'environ 20 000 habitants. Rambo a l'allure typique du hippie, négligé, sac à dos, cheveux longs. Le shérif Teal passe, le prend dans sa voiture, mais pour le déposer hors de la ville, parce que des gens comme Rambo, qui avec leurs cheveux longs ressemblent plutôt à des filles, ça peut ne créer que des ennuis. Et Rambo revient une première fois, et est raccompagné à nouveau par le shérif, puis une deuxième fois, puis une troisième, jusqu'à ce que devant le mutisme total de Rambo, le shérif Teal décide de le coffrer sans savoir qu'il va déclencher l'apocalypse, et le mot n'est vraiment pas excessif. Rambo va s'échapper en éventrant un policier au rasoir, fuir nu sur une moto qu'il vole poursuivi par Teal hors de lui, et se réfugier dans la montagne. Et le shérif va mobiliser tous ses policiers, refusant comme il en a l'obligation de recourir à la police fédérale, faisant de cette affaire une affaire personnelle. Mais affronter Rambo dans la forêt, son terrain de prédilection, c'est jouer avec le feu. Il va réussir à faire s'écraser un hélicoptère, à tuer tous les policiers à sa poursuite, sauf-t-il, à échapper à l'armée, qui a été mobilisée, et à tous ses bons citoyens voulant faire régler la loi, partis à sa poursuite. Rambo ne cherche pas à fuir, mais à tuer Teal, l'homme responsable de tout l'enchaînement. First Blood, c'est prenant. C'est une chasse à l'homme à couper le souffle et on ne peut lâcher cet homme seul contre tous, même si ce dont il est capable est plus qu'improbable. La dévastation de Madisonville en est l'exemple parfait. Pour éviter tout manichéisme, David Morrell alterne les paragraphes, donnant la voix alternativement à Rambo et à son poursuivant, le shérif Teal. Cela produit un effet d'arythmie, d'essoufflement, tout à fait adapté au sujet du roman. David Morrell s'explique dans la postface à l'édition de 2000, tout particulièrement dans l'excès de violence militaire. Il explique que son projet, en pleine guerre du Vietnam, elle ne s'achèvera qu'en 1975, était d'installer la guerre dans toutes ses composantes sur le territoire des États-Unis. Et ce qui pouvait sembler excessif dans le roman n'était somme toute que le quotidien des Vietnamiens. Et puis le roman n'a rien à voir avec le film de Ted Kotcheff. David Morrell, lui, reste distant, par opposition au film qui n'a vocation qu'à distraire. Rien de surprenant que First Blood ait été publié par la trop recommandable édition Gallmeister. Dommage cependant que pour des raisons sans doute commerciales, ils aient choisi le titre Rambo pour l'édition de 2018, alors qu'ils l'avaient déjà publié en 2013 sous le titre Premier sang. Le roman s'appelle Rambo, First Blood. Il est signé David Morrell. Il est publié aux éditions Gallmeister dans la collection Totem et il est à consommer sans modération.
Merci Luc pour cette chronique. Elle m'a donné envie de lire ce roman que je n'ai pas encore lu. J'irai piocher dans la collection Totem des éditions Gallmeister pour retrouver le texte intégral traduit par Éric Diacon. J'espère avoir de la chance parce qu'il me semble que le roman est indisponible aujourd'hui. On va maintenant aller faire un petit tour dans le sud de la France en compagnie de gamins désorientés, nerveux et parfois féroces. Vous entendez cette petite musique ? Eh oui, c'est l'heure de notre débat cinéma autour de Jeunesse sauvage de Frédéric Carpentier, un film qui ressort en DVD chez Rimini. Alors, je vous avertis d'ores et déjà, certaines scènes peuvent paraître violentes et sur ce plateau fictif, nous avons eu trois réactions différentes, car nous avons nous aussi nos propres cœurs d'artichaut. On passe un petit extrait et on prend la parole.
T'as vu depuis qu'on est parti là.
On a changé de quartier. Il y a des voitures garées. Il y a des gens. Voilà, c'est bon.
Le mec qui a failli te rentrer dedans, il avait le téléphone qui dépassait de la poche. Des ados sur le banc. Il y avait un sac au bout, c'était facile à attraper ça. Puis il y avait une femme là avec une poussette là. Elle n'avait rien à foutre de rien à téléphoner là, avec toutes ses affaires par terre. Tu fais quoi avec tes yeux hein? Marche pas comme ça là. T'es pas en promenade.
Montre-moi alors.
Regarde bien les gens, toute la journée. Tu vas comprendre. D'abord, faut que tu repères ceux qui ont peur. Eux te disent déjà qu'ils vont se laisser faire. C'est tes meilleurs amis, ceux-là. Après, il y a les autres. Lui, là, regarde-lui. Lui, il a du fric sur lui, c'est sûr. Mais il préfère crever que de te lâcher, c'est sûr, ça aussi. Faut que tu vois à travers les gens. Tu comprends? Pour ça, faut passer des heures dans la rue.
J'y passe ma vie déjà. Elle, je vais me la faire.
Tu vas rien faire du tout. Elle a des chaussures plates.
Je m'en bats les couilles de ses chaussures, moi.
T'es trop petit. Son sac, il est trop lourd. Quand tu vas aller le tirer, avec ses chaussures plates, elle va résister. Et tu vas tomber. Et pas elle. Puis laisse-la, elle a pas d'argent. Elle. Ça se voit. Puis t'as même pas regardé autour. Regarde un peu. Tu vois le balèze là-bas? Si tu l'attaques, il va s'en mêler. Et comme t'es une teigne, ça va mal tourner entre vous, tu vas avoir des côtes cassées, c'est ça que tu veux en fait. Hein? Tu veux te faire casser les os, toi. En pleine croissance.
Bon, ok, j'y vais pas.
Bon, eh bien, puisqu'il faut présenter le film, Julien, je me lance à l'eau. À 7, un jeune chef de bande, Raphaël, Pablo Cobo, entraîne son équipe au vol à la tire. Chapardage de téléphone, vol au distributeur des banques, vol de grosses berlines pour le compte d'un garagiste véreux. Il dirige son équipe avec fermeté, s'interdisant certaines actions parce que trop risquées et pouvant les exposer aux armes à feu ou au très grand banditisme. Il les entraîne aux gestes mais aussi au combat de rue dans une salle de lutte clandestine et improvisée. Les affaires roulent pour eux, ils règnent sur les rues dans une apparente quasi-impunité. Raphaël prend aussi en charge son père, Jérôme Bideau, devenu SDF et aussi apparemment bipolaire, et il vit dans la maison de Émilie, Léon François, dont il va tomber amoureux. Mais voilà, très rapidement on perçoit les dissensions avec son lieutenant Kevin, Darren Muselet, déjà vu dans Hors Normes et Mon Frère. Au cours d'une bagarre avec une autre bande, Raphaël va tuer un des membres et pour lui, tout bascule. La culpabilité va lui faire baisser la garde et laisser la place de chef à Kevin, chien fou, persuadé que Raphaël jouait trop petit bras et veut montrer au reste de la bande que lui, au moins, avait le courage de jouer dans la cour des grands. C'est le premier film de Frédéric Carpentier. Il est tourné à 7, on est dans le sud, la Méditerranée, il fait toujours beau. Les bandes exercent leurs activités dans la ville et à aucun moment leurs comportements ne sont rattachés au phénomène de cité. Les comédiens sont jeunes et pour beaucoup, ils jouent leur premier rôle. Les bandes sont composées de façon politiquement correcte. Il n'y a pas que des jeunes issus de l'immigration. Frédéric Carpentier voit large, puisqu'il intègre dans l'action une bande de filles tout aussi mélangées et performantes que celles des garçons. Autre particularité, les délits commis ne sont pas attachés au trafic de drogue. Enfin, la police est présente, mais uniquement en civil. Et quand elle intervient, c'est pour interpeller Raphaël. C'est entre autres pour lui passer comme message que sa bande est sur les écrans radars des forces de l'ordre. Le problème qui se pose, c'est est-ce que ce qui nous est montré fait un film ? Est-ce que faire des images qui bougent fait un film ? Frédéric Carpentier veut nous montrer une certaine jeunesse revendiquant le vérisme. Tout semble vrai, rien n'est excessif ni caricatural. Le parler qui n'est pas excessivement Jones, les tenues vestimentaires, les relations entre les membres de la bande, les conflits, la violence permanente. Même cette, la ville est belle. Mais montrer le vrai fait-il un film ? Dans Jeunesse sauvage, tout est lisse, propre, sans aspérité. Jean-Luc Godard, dans ses formules dont il a le secret, dit « Il y a le visible et l'invisible. Si vous ne filmez que le visible, c'est un téléfilm que vous faites. » Il semble que Frédéric Carpentier n'ait filmé que le visible. Et même là, ça ne fait même pas un bon téléfilm. Peut-être, avant de se lancer dans cette aventure, aurait-il dû voir Los Olvidados, réalisé il y a 70 ans, par un certain Luis Buñuel.
Salut les amis. Et tout d'abord, merci pour ce bon film, très bon film. Enfin, comment dire, qui m'a eu l'air excellent, d'un réalisateur dont je n'avais jamais entendu parler, qui m'a profondément touché en fait, véritablement en profondeur. Dès le générique, avec cette mise en abîme du personnage qui entre dans le champ de vision par le cadre d'une fenêtre, qu'on s'en factice. Mais on comprend vite l'importance du cadrage au cinéma et l'importance de l'affirmation du cadre dans l'éducation d'un enfant. J'ai senti que quelque chose se passait à l'intérieur de moi, dès le générique. Au bout des 5 premières minutes du film, j'ai dû faire une pause. Je haletais. Je n'avais aucune distance vis-à-vis des images projetées. Les 2 autres tentatives m'ont conduit à peu près à la moitié du film. C'est bizarre de se retrouver à parler de ce qu'un film peut vous faire, surtout quand on n'a vu que à peu près la moitié. Il y a eu ce flashback. J'étais dans cet énorme organe de la grande distribution Porte de Bagnolet, avec mon bébé qui n'avait pas encore 2 ans, dans le porte-bébé métallique du caddie. Perte de temps incommensurable dans la vie d'un être humain, moment de grâce dans la vie d'un consommateur, moment ultime dans celle du gérant de l'établissement quand il se laisse bercer jusqu'à l'enivrement par le crépitement des dizaines de caisses enregistreuses. Au détour d'un rayon, un pistolet est soudain braqué sur la tempe de mon gamin. Et sans sommation aucune, le coup part. Il faut être bon bruiteur quand on veut être crédible avec un pistolet en plastique et qu'on a peut-être 6 ans et demi. Parce qu'après, c'est l'âge de raison. Mon gamin me regarde. Visiblement, il n'a pas eu le temps de comprendre qu'il était mort, en fait. L'assassin, en véritable serial killer sans état d'âme, traque déjà sa prochaine victime. Sa mère ne voit pas où est le problème. Personne d'ailleurs. Et tout le monde préférerait que je cesse de hurler ma colère. Là, voyez-vous, vous dérangez. Pour en revenir au film, la question est essentiellement celle du modèle qu'on leur propose à nos jeunes. Pas juste des paroles pour qu'ils restent dans le rang, souvent un trop profond d'ailleurs ce rang. Des paroles suivies des faits, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y en a encore pour s'étonner du désintérêt des jeunes pour la chose publique ? Du désintérêt des Français pour la parole politique ? Merci.
Alors moi, au contraire de Luc, j'ai plutôt bien aimé ce film. Et pourtant, j'avais quelques a priori, car les films sur la délinquance juvénile, c'est pas franchement ma tasse de thé. It's not my cup of tea. Luc, il y a quelque chose qui me semble t'avoir échappé, cependant. Ce film me paraît être un hommage discret à West Side Story. Alors oui, bon, je sais, comparaison n'est pas raison. Ce qui me frappe, dès son début, c'est sa chorégraphie. Les entraînements à la tire dont tu parles font penser à de la danse contemporaine. Par la suite, il y aura sans cesse des comédiens qui virevoltent, et les deux fois où Raphaël se perdra dans une véritable danse avec musique assourdissante sont là en écho pour mieux nous signifier que dans ce ballet, c'est le danseur solitaire. Et puis, la dernière scène, elle fait définitivement écho à la première. Alors bien sûr, dans cette trajectoire solitaire de Raphaël, il y a des clichés, ce que toi tu vois comme du vérisme. Mais ils me paraissent assumés et sans trop de pathos. Bon, d'accord, il y en a un peu quand même. Alors, on y croit ou on n'y croit pas. C'est du cinéma. Et je ne crois pas que c'est du vérisme. L'esthétique est présente et la chorégraphie est là pour nous dire que l'on est dans un film avec une pointe artistique. Alors, c'est un premier film. Peut-être que le principal tort du réalisateur, c'est de ne pas avoir été jusqu'au bout de ses idées. Peut-être aurait-il dû forcer le trait de la danse. Et aussi, c'est vrai, donner le rôle de Raphaël à quelqu'un de plus crédible. Attention, je ne dis pas que Pablo Cobo n'est pas bon. Mais il me semble en dessous des prestations de son second dans le film, Darren Newsley, et surtout de la fille dont il tombe amoureux, Léone François. Elle, c'est la véritable réussite de ce film. Toute l'émotion passe par elle. Elle joue juste, elle joue vrai. On y croit. Toups, on peut comprendre ce que tu as ressenti. Mais à mon avis, si tu revois ce film pour ce qu'il est, dans d'autres conditions, dans un autre état d'esprit, parce qu'après tout, les films, c'est comme les romans. Il y a des moments pour les voir, il y a des moments où il ne faut pas les voir. Eh bien, ce film, tu y découvriras aussi un appel désespéré à la vie. Toi, je sais que je peux te convaincre. Luc, j'en doute fort, après tout ce qu'il vient de nous en dire. Bon, je peux me tromper. Un dernier mot, Luc ?
Bon, les amis, mon jugement sera sans appel. Bien que ne faisant qu'à peine 1h20, Jeunesse sauvage semble long, très long, pour au moins une raison, c'est que tout est téléphoné. On imagine bien Frédéric Carpentier rédigeant son scénario et se disant qu'il ne faut qu'il ne manque rien, donc des bagarres, un tout petit peu, mais vraiment un petit peu de sexe, la relation au père difficile, oui mais bipolaire, des filles délinquantes pour ne pas circonscrire le phénomène aux garçons, une composition des groupes parfaitement équilibrée. Même les flics ont un parler exemplaire. La bande qui a agressé et tué le père de Raphaël est désignée par le terme de « nomade ». On croit rêver. Mais finalement, Frédéric Carpentier ne filme qu'une impuissance. Raphaël qui se fait détrôner de son rôle de chef par Kevin, prénom ô combien symbolique. Raphaël incapable de faire physiquement l'amour, incapable d'avoir une relation avec son père. Raphaël préférant la fuite. Alors, pardon pour l'extrapolation psychanalytique de supermarché ou de café du commerce, choisissez. En réalité, il ne filme que son impuissance à faire un film. Il a un scénario, un lieu, du matériel, une équipe, mais ce qui lui manque fondamentalement, c'est un point de vue. Et c'est ce qui fait toute la différence.
Vous êtes bien sur Radio G 101.5 FM. C'est Calibre 58 et je dois vous avouer une chose, je ne réussirai pas à faire changer Luc d'avis. Mais comme la réciproque est vraie, je ne m'en fais pas. D'ailleurs, c'est un peu le fondement d'un débat. J'espère juste que le film trouvera chez vous son public. Il n'est pas pour tout le monde, il est pour certains et j'espère le plus grand nombre. Je vous rappelle son titre, Jeunesse sauvage. Il est réalisé par Frédéric Carpentier et il est disponible en combo Blu-ray DVD chez Rimini. Mais revenons vers d'autres mœurs plus adoucies, la musique. Alors, Toups, comment ça jazz ?
Ça jazz, bébé ? Eh bien, ça jazz morne en ce moment. Je dirais même que ça jazz mourn. En anglais, mourn, c'est l'expression de la souffrance et de la tristesse éprouvée à la mort de quelqu'un. À 79 ans et demi, l'immense pianiste tchécoréen vient de tirer sa révérence et ainsi d'annoncer à la planète entière que désormais, il ne s'intéresserait à la poursuite des débats que depuis les étoiles. Bon, dans la tradition africaine qui a réussi à s'exporter à la Nouvelle-Orléans, c'est donc l'occasion à ne pas manquer pour faire une grande fête. Souhaiter une bonne traversée et surtout une bonne arrivée dans l'autre monde, car à un moment donné, il faut bien l'admettre, la mort n'existe pas. Alors, les artistes n'en sont pas toujours aussi sûrs dans le sens du certain, de la certitude. Contrairement aux astrophysiciens comme Michio Kaku, grand maître de la physique quantique. Du coup, ils se hâtent durant leur existence de laisser des traces pour pouvoir continuer à vivre à travers leurs œuvres. Dans le cas de Tchécoréa, on peut parler d'embarras du choix. On peut dire de l'homme aux 115 albums enregistrés qu'il aura énormément produit. La reconnaissance aura aussi été au rendez-vous, en témoignent ses 23 Grammy Awards. Pour les auditeurs de Radio G 101.5 et particulièrement ceux de l'émission Calibre 58 qui ne le connaissaient pas encore, pour moi il était génial parce que il avait réussi l'équation parfaite, le postulat qui lui-même est résumé en une seule phrase. Cette phrase courte est attribuée à un autre pianiste de génie, Bill Evans, mélodiste hors pair, avec des concepts harmoniques très avancés, lui aussi passé par Miles Davis, mais un peu plus tôt, à la fin des années 50, qui a imprimé sa patte de velours sur un album légendaire, Kind of Blue. Cette phrase courte, qui vient plus ou moins directement d'un autre pianiste de légende, Duke Ellington, mais là je digresse un peu et je sens que vous n'en pouvez plus, alors je vous la livre, cette phrase courte, écoutez. Il faut trois ingrédients pour réussir la musique. Du rythme et du rythme. L'introduction du deuxième de ces trois quartets. Trois quartets. Un album paru en 1981, écrit et conçu dans une tradition de quatuor baroque, mais avec des instruments de jazz. Et Michael Brecker au saxophone. Force est de constater que le rythme, il connaissait un peu le monsieur, au point de donner à un de ses tubes le titre d'une famille de rythmes qui est aussi une danse, la rumba. Car oui, le monsieur arrivait même à faire des tubes avec du jazz. Mais avant d'oublier la force de ce génial et immortel pianiste,
dont on nous dit qu'il vient de nous quitter, alors qu'on entend bien qu'il est là. Sa force aura été de me faire admirer un saxophoniste que je détestais. Écriture parfaite, interprétation parfaite, total respect. En passant, je signale quand même que cette première partie du quartet numéro 2 est dédiée à Duke Ellington. Oui, oui, celui-là même qui disait « It don't mean a thing if it ain't got that swing ». On écoute Armando Srumba. Armando était le prénom de Chick. Paru en 1976 dans l'extraordinaire album My Spanish Heart. C'était après l'aventure de son groupe de jazz fusion Return to Forever. Mais ne t'inquiète pas, Chick. Forever, ta musique est là. Hé, où veux-tu qu'elle aille ? Thank you.
Merci Toups pour ces dernières minutes apaisantes et mélodieuses. Bon, d'accord, c'était sur un sujet triste. Mais moi, un café jazz, ça me manque cruellement. Calibre 58, c'était cette semaine avec Luc et Toups. On a causé du film Jeunesse sauvage de Frédéric Carpentier sorti chez Rimini. On a entendu Gwenaël Bulto et on en sait un peu plus sur son premier roman publié à la Manufacture de Livres, La République des Faibles. Luc, qui est plein de surprises, nous a parlé de Rambo avant Rambo à travers le roman de David Morel et Toups nous a rendu un joli hommage à Chick Corea, pianiste magnifique. Pour retrouver le sommaire de l'émission Calibre 58, deux adresses, le site de Radio G et sa page dédiée à notre émission et la page Facebook Calibre 58. En plus, vous aurez accès au podcast. On vous dit à dans 15 jours et on vous laisse avec nos amis imaginaires. D'ici là, portez-vous bien. Salut Luc, salut Toups, et encore merci.
C'est déjà fini. Bon, alors, au revoir les amis.
Au revoir. Radio G 101.5 FM.